Ce jour est dédié pour la version de l'âme de Karen Ruth Lenz, la question de David.
Alors, comment faire quand on a fait des choix pour vivre en adéquation avec sa famille, quand on est à table, par exemple, quel sujet de discussion, quand nous on pense vraiment Torah et il y a plusieurs sujets de discussion qu'on n'aborde plus, ou enfin, les sujets généraux ne nous intéressent plus forcément, comment faire un petit peu pour vivre dans tous les domaines?
Ok. Bon, il y a beaucoup d'aspects dans ta question. Le principe est le suivant. Quand on fait tchouva, et combien, donc si on fait une vraie tchouva, c'est-à-dire qu'on quelqu'un qui vient de loin, qui vient d'un milieu ambiant, contraire à la Torah. Tout à coup, il commence à devenir pratiquant, et quand il fait une tchouva solide, il devient extrêmement, par la nature des choses, il est poussé par une quête, une soif de vérité très grande, il devient extrêmement entier. Et vu que c'est nouveau, il est aussi pas très nuancé. Quoi qu'il en soit, il est comme un cheveu dans la soupe. Parce qu'eux ne sont pas pratiquants, ne croient pas à cela. Et lui commence à faire des actions comme un pratiquant. Et il y a des cas où, si les deux sont doués de grandeur d'âme, de tolérance, ça se passe très bien. Mais d'habitude, ça crée des problèmes. La raison est très simple. Quelqu'un de non-religieux, un juif, il a un neshama, il a un éclairage divin qui lui dit « Pourquoi tu ne pratiques pas ? Tu sais bien qu'il y a un Dieu, tu sais bien qu'il y a une Torah, j'y crois pas. Bon, » D'abord, en Suisse, en France, en Suisse aussi, la majorité y croit. Les bons sfaradim, la majorité sont des croyants. Même celui qui n'y croit pas, mais qui se sent juif, c'est quoi se sentir juif? Il s'identifie, il revendique, il se bat pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il sent qu'il a une appartenance qui est plus qu'un nationalisme à deux sous, d'accord? Il y a ici, il sent quelque chose de spécial, maintenant. Même s'il ne sent pas, s'il fait une petite analyse, il comprend qu'on est un peuple spécial. Beaucoup de grands goïms, de grands écrivains, de grands penseurs ont parlé sur le peuple juif. Nicolas Berdaïev, Mark Twain, Blaise Pascal, beaucoup d'autres. On dit que c'est extraordinaire comment ce peuple arrive à tenir depuis 3400 ans. C'est un miracle. Il dit ce mot. On voit, il y en a un de ces quatre-là qui dit qu'on voit qu'ils jouissent d'une providence divine extraordinaire. C'est à peu près la terminologie. D'accord ? Alors, le lambda juif, en France, même non-croyant, mais s'identifiant au peuple juif, il voit cela. Même s'il ne s'identifie pas, comme j'ai dit, une petite analyse, il verra qu'il y a un truc spécial avec ce peuple. Maintenant, pour des raisons de commodité, il ne veut pas trop commencer à réfléchir providence divine, ça veut dire qu'il y a un Dieu, ça veut dire en quoi je suis juif, il y a un message divin. Après tout, la Torah est le texte qui a été le plus traduit dans le monde. On parle de nos sens de façon tout à fait non proportionnel, exactement, merci. Il y a des choses spéciales. La haine habituelle, éternelle du juif, dans tous les cas de figure, que ce soit l'époque romaine, grecque, musulmane, dans les pays de l'Est, pays de l'Ouest, où que tu sois, et bientôt avec ce qui se passe dans le monde là, ça va barder, d'accord ? On revient toujours sur nos pattes. Le responsable de tout, c'est le juif. Ces choses-là disent, si on approfondit un minimum, que Dieu existe, a donné la Torah, c'est le fondement du peuple d'Israël, et toi, en tant que non-pratiquant, t'es pas en face. C'est extrêmement enquiquinant. Ça le dérange. Alors, tant qu'il voit d'autres juifs comme lui, qui sont dans le même mouvement, on aime bien le peuple juif, on va donner de l'argent à Israël, on va se battre, on va parler à la radio, on va dire, ok, mais laïque, ça va, je ne suis pas le seul, ça le calme, il comprend qu'on peut être, hein, quand je suis le seul comme ça, peut-être je suis dans l'erreur, mais si on est plusieurs, on est bien comme ça. Tout à coup, mon fils fait tchouva. C'est une gifle. C'est une remise en question terrible. Mon fils, c'est mon fils, c'est pas l'étranger. C'est un type bien. Je connais. Il n'aurait pas fait ce choix comme ça. Alors deux choses l'une. Ou il a raison, et moi je suis un crétin fini. Et donc je vais faire tchouva. Mais c'est impossible. Impossible. Je ne peux pas accepter de faire tchouva. C'est trop dur pour moi. J'ai ma communauté de vie, je ne vais pas changer. Ah, qu'est-ce que je fais? Il me remet en question. Ma seule porte de sortie, c'est dire, il est taré. Il avait un problème psychologique grave, on lui a fait un bourrage de crâne, il s'est mis à croire comme ça, c'est un besoin psychiatrique même, d'accord. Il devient fanatique, c'est terrible. Il y a eu, je me souviens à l'époque où je fais tchouva, c'est une trentaine d'années, il y a eu un garçon qui a fait tchouva d'une famille, on peut dire aristocrate du nord de Tel Aviv, d'accord. La mère est partie en duel contre lui. Ça arrivait à la radio, les infos, les médias, tout le monde se mêlait de ça, d'accord. Terrible. Et beaucoup m'ont dit, je préfère un fils drogué plutôt que ça. Pourquoi? C'est si grave, il est chômeur Shabbat. Il mange cachère. Je ne sais pas comment c'est chez vous, les oppositions de la famille, mais je connais des cas. Il y a un autre, un rabbin, il vient de Hollande, son père est venu à l'Aïcha un jour avec un pistolet. Tu sors d'ici. Ouais. Moi, mon premier bal tchouva, il enseigne de temps en temps ici à l'Aïchiva, il a fait tchouva. Comment il a fait tchouva? C'est marrant, je vous raconte l'histoire. Il était de Suisse, et il a passé le Shabbat, dimanche, il n'est pas reparti ensuite, il est en vacances, il est venu chez moi et ma femme, on venait se marier, il est venu passer Shabbat chez nous. Je fais un peu de Gemara avec lui. On fait Maseret Betsa, le traité Betsa, sur un œuf. Et il était épaté. Bon, on a parlé aussi d'autres choses, tout ça, mais la Gemara, c'est un œuf. Le lendemain, il décide, je lui dis, il reste encore un peu. Il repousse son billet d'une semaine. Il va à la plage avec des copains, il dit, tu sais quoi? Un traité entier sur un œuf. On part sur un œuf, des questions comme si, c'est extraordinaire. Oui, en fait, tu vois, Baruch HaShem, et... Un jour, son père m'a appelé. Alors, il est rentré en Suisse, il a commencé à être pratiquant. Son père était directeur de banque. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit appelez mon fils, dis-lui de tout arrêter, qu'il ne vienne pas, ni yeshiva, ni rien, parce que moi, je chauffais sans cesse, d'accord. C'est dommage qu'un malheur arrive à votre femme, elle est enceinte. Carrément, des menaces.
À vous?
À moi? Wow, c'est... Mais c'est courant. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de choix, mais au début, c'est... La remise en question du type est terrible. Il ne peut pas accepter une chose pareille. Et j'explique maintenant le principe. Parce que si mon fils a raison, je dois changer ma vie. Je ne veux pas. Donc mon fils a tort. Mais mon fils, j'aime bien. Alors c'est qui? C'est le type qui influence. C'est le rabbin, c'est la secte. C'est la secte. La secte. La secte. J'ai eu beaucoup d'autres cas encore. Bon, je ne vais pas tout vous raconter. Bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Une fois, il y a... Bon, qu'est-ce que je commence à faire? Peu importe, c'est pas le sujet qui va nous avancer sur la question posée. Il faut comprendre le principe. Alors, quel est le meilleur moyen, d'abord, de désamorcer l'agressivité naturelle et normale? Ils doivent sauver... Ces gens-là, il faut comprendre, ils doivent sauver leur peau. Donc, plus tu vas tenter de le convaincre de la vérité, plus t'as raison, plus en situation de danger, donc il sort ses griffes, il devient agressif. Et te traite de tous les noms. T'es un paranoïaque, moyenâgeux, obscurantiste, fanatique, romaniste, etc. La meilleure solution, à mon avis, c'est leur dire très clairement. Je ne suis absolument pas intéressé à ce que vous fassiez de tchouva. Je respecte totalement votre façon de faire. Soyons tolérants. Nous prenons eux prétendent qu'on est des intolérants. La Torah, c'est super intolérant, disent-ils. Et au contraire, moi je suis tolérant, je ne vous dis pas de changer. Restez comme vous êtes, surtout ne changez pas. Surtout, vous ne faites rien de plus, je vous demande de rester comme vous êtes. Mais soyons tolérants, et vous devez aussi accepter mes choix, comme je respecte les vôtres. Normalement, il n'y a aucune parade à cette argumentation. Aucune parade. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non? Alors c'est toi l'intolérant, alors je comprends pas, c'est qui le fanatique? C'est toi ou moi? Moi, je ne t'ai pas dit de changer. Tu me demandes maintenant de suivre tes choix et pas mes choix. Alors, je ne te demande pas de suivre mes choix, alors que chacun tolère l'autre. Nous sommes tolérants.
Souvent, ça fait des séparations. Hein.
Pardon ?
Et souvent, ça fait des séparations.
Alors, on parlait encore aussi un peu de cela, c'est vrai, au niveau de la nourriture surtout, beaucoup, c'est vrai. Donc déjà, normalement, si on leur explique qu'on ne veut pas qu'ils changent, ils ne vont pas trop se sentir menacés. Et il ne faut pas leur parler, vraiment pas leur parler. Rien. Le jour où eux demandent une question, tu peux répondre. Mais dis-tu vraiment, tu veux vraiment que je te réponde ? Si la mère ou le père ou le frère disent oui, 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 tu réponds. Sinon, tu n'as pas le mitzvah de leur faire tchouva. Tu as le mitzvah. Il faut faire tchouva au peuple d'Israël entier. On a envie que nos parents et notre entourage fassent tchouva. Mais le meilleur moyen de les faire fuir, c'est de leur dire fais tchouva. Il faut susciter leur intérêt. Comment tu te tais ? Et tu leur dis tu fais ce que tu veux. Alors des fois, déjà, ils voient que tu n'es pas un type, tu n'es pas trop dangereux. Et après, dans ta chaîne, tu dois montrer aussi que la Torah, elle épanouit. Il y en a qui rentrent à la maison, et c'est vrai, parce qu'ici à l'Eshiva, tu vis d'après les critères de vie que tu as choisis. Tu rentres à la maison, ça ne va pas. Shabbat, il y a la télévision, à table, il y a l'iPhone qui sort, tout à coup, ton frérot, il embrasse sa copine devant toi, Goya, qu'est-ce que j'en sais, moi il y a de tout, le papa qui sort, qui met son jambon beurre sur ta viande cachère, enfin, il peut y avoir tous les cas de figure, d'accord, etc. Il faut rester souriant et impassible. Pas facile, parce que tu es heurté.
C'est énervant, ça.
C'est énervant, mais il faut travailler là-dessus. T'as pas à leur dire quoi faire dans leur vie. De même que eux, tu exiges de leur part, de façon tout à fait légitime, qu'ils ne rentrent pas dans ta vie, tu ne rentres pas dans leur vie. Alors, ils vont que tu n'es pas menaçant. Et lentement, s'ils te voient épanoui, souriant, tolérant, ils vont peut-être commencer à s'intéresser. En fin de compte, ils verront très bien. Parce qu'aujourd'hui, pas besoin de faire une étude comparative trop poussée pour comprendre que le monde occidental s'est complètement planté. Au contraire, le monde orthodoxe, israélien, bien que, comme je répète toujours, il y a des millions de problèmes. Il y a des problèmes durs, c'est clair. Mais ça, on fait une étude comparative. Il ne faut pas dire, je connais un religieux comme ci ou je connais aussi un non-religieux comme ça. Ça ne m'intéresse pas, je connais un. Il faut prendre les chiffres, tac, 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 et comparer. Combien de divorces ? Combien de tromperies ? Combien de délinquants juvéniles ? Combien de drogués ? Combien de pornographie ? Combien de... J'ai dit drogués ? Ouais. Drogués, ok, d'accord. Combien de manque de respect ? Combien d'honnêteté ? Ah ben je connais un religieux drogué, malhonnête qui bat sa femme. Ok, moi aussi j'en connais. Et alors ? C'est pas ça, c'est pas le 1 ou 2 qu'on connaît. Il faut faire une étude comparative. Et c'est très simple. On peut à peu près inverser les chiffres. Si 98% des garçons ont goûté une fois un joint, d'accord ? Ont fumé un peu de shit dans leur vie. Normal, d'accord ? Goûté une fois dans sa vie, d'accord ? Eh bien, 2% n'ont jamais. Dans le monde orthodoxe, c'est le contraire. 2% qui ont goûté, 98% qui n'ont jamais goûté. Si dans le monde occidental, 98% des gens ont vu au moins une fois dans leur vie un film porno, à l'envers dans le monde orthodoxe, etc. Bien qu'il y ait des problèmes, je répète, mais il faut faire des totaux. Et tu vas donc créer une famille où régnera le respect entre l'homme et la femme. Où régnera un respect des enfants envers leurs parents. Où régnera. Au bout d'un moment, il n'y a pas photo. Ils comprennent très bien les gens. Ils comprennent que vous avez réussi. Et nous, on a raté. Ça prend 10-20 ans. Au bout d'un moment, l'exemple vivant vaut mieux que tous les arguments. Au début de la route, tu vas montrer qu'on est épanoui, qu'on est heureux. Tes parents, après tout, ils veulent ton bien. Ne sois pas, quand tu rentres à la maison, tu fais la grimace tout de suite, tu rentres dans ta chambre, tu t'enfermes à clé, d'accord, ils vont dire, il était normal, il est devenu anormal. Ça fait du Chilul Hashem. C'est pas facile, comme tu dis, mais c'est ce que Dieu nous demande, on doit montrer une image belle de la Torah, comme elle est vraiment. Si ça épanouit, pourquoi tu fais la grimace ? Alors c'est dur quand ça heurte notre vie, mais on doit être tolérant avec les autres. C'est le meilleur moyen de les rapprocher aussi. Mais il faut oublier de rapprocher pour le moment. Il faut simplement vivre en tolérance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des... Le moment où il peut y avoir des heurts, c'est lorsque la Torah m'interdit une certaine chose que mes parents veulent m'imposer. Par exemple, la nourriture, c'est un endroit assez courant de heurts. Toi, tu as certains standings de nourriture, que tes parents n'ont pas. Alors, il faut savoir d'abord que chez les parents, pas manger taref. C'est clair que c'est interdit. Mais on peut beaucoup alléger la loi. Parce que Kibbout Avehem, c'est le cinquième des 10 commandements. Et nous, on fait attention de manger kasher, et pas kasher, mais c'est dans les finesses. On peut manger un kasher moins de renom, moins hyper sérieux. Je dis pas taref, kasher. Mais un kasher, on peut dire, par exemple, ok, hein, tu prends, on sait que l'organisation de kashrout, elle est super top, un peu moins, encore un peu moins. On peut descendre dans les niveaux de nom d'organisation de kashrout. Ça reste en kasher. Hein. Pardon ?
Les chameaux,
il n'y a aucun problème. Le lait chameau, d'accord ? D'abord, pour l'Ashkenazim, des grands poskim Ashkenazim, que le rabbin Moshe Feinstein, il dit qu'on peut, dans les pays où la législation du pays interdit de façon extrêmement grave l'utilisation d'autres laits que du lait de vache, il n'y a aucun problème à avoir du lait non chameau. Les Bnei Torah, les gens qui sont plus sérieux, qui fassent attention quand même. Les Sfaradim sont plus fermés là-dessus, ils interdisent, mais tous sont d'accord que s'il y a une nécessité, par exemple pour un enfant, on ne peut pas aller du maternat comme il faut, hein, du lait en poudre, etc. S'il y a une nécessité, on peut alléger. Les parents, ce n'est pas nécessité, c'est le cinquième du commandement. Cinquième du commandement, c'est la barre extrêmement haute du respect des parents. Si le parent te dit, fais une chose qui est contre la Torah, alors la Torah est très claire, elle dit qu'il faut écouter l'élève ou le prof. Le prof, c'est Dieu. L'élève, ce sont mes parents. Donc, entre l'élève et le prof, j'écoute, le prof, c'est Dieu. Donc, je dis à mon papa, à ma maman, désolé, mais je ne peux pas. Ils vont hurler, tant pis, on ne peut rien faire. Maintenant, si je peux alléger tout ce que la Torah va autoriser en cas de nécessité de force majeure, les parents, c'est un cas de force majeure. Quand on autorise dans ces cas-là, on peut et on doit utiliser mais attention, je dis bien, tant que c'est permis en cas de nécessité ou de force majeure, pas dire qu'on a autorisé ce qui n'est pas permis. Ce qui n'est pas permis, même de façon extrêmement légère, mais c'est interdit, point barre. Terminé. On ne discute pas là-dessus.
Et au niveau des...
Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Bon, je ne vais pas donner trop d'exemples. Je vais donner un exemple, pas du permis, parce qu'on ne publie pas trop. Hein. Chaque cas est un peu... Mais au niveau de l'interdit, il y a un problème de Tivlat Kilim, que les ustensiles de verre et de métal doivent être trempés au mikvé. Il n'y a pas de parade. Il n'y a pas de parade. Si on nous sert un plat qui a été cuisiné dans une casserole cachère ou qui est servi dans un plat de verre cachère, je peux manger ces aliments, mais à condition que moi, quand je le mange, je n'utilise pas des couverts ni assiettes qui soient de métal ou de verre non trompé au mikvé. Même si ça a été cuisiné dans des ustensiles qui ne sont pas trompés au mikvé, j'ai aucun problème. Ce n'est pas que c'est communicatif que le long kasher se transmet. Le plat, il est permis. Je n'ai pas le droit d'utiliser. Moi, mes parents, ils peuvent. Mais après, ils ne peuvent pas, mais c'est leur affaire. Ça ne crée pas de problème chez moi. La nourriture reste kasher. Je dois simplement, moi, m'en nourrir dans un plat qui est soit trempé, soit ni en métal, ni en verre. Donc en plastique, en bois, en poterie, en porcelaine, toutes ces choses-là, je peux manger. D'accord ? Donc, on dira à papa et maman, ils feront en sorte d'acheter de la viande cachère. Au pire des cas, tu iras même toi-même l'acheter. D'accord ? On aura aussi une casserole cachère à la maison. Et tu mangeras toi, ou bien tu dis à ta mère, maman, t'en fais pas, tu pars à la maison 2 heures, je m'occupe de tout. T'appelles une organisation qui s'occupe de tremper, ou tu prends toi-même, tu vas tout tremper à la rivière, au mikvé, à la mer, n'importe quoi. Tu nettoies tout, tu remets tout comme il faut bien à la place. Tout devient caché à la maison. Si, et c'est le cas souvent, la mère ne veut pas qu'on touche à sa cuisine, en aucun cas on va tremper une seule fourchette de ma maison, d'accord ? Alors, tu prends tes plats à toi, tu les trempes au mikvé, ou tu manges dans des matériaux, comme je l'ai dit, en plastique, en tout sauf verre et métal. Ça, par exemple, c'est une lacha qui est des rabanan. Enfin, pour le métal, c'est de horaïta. Pour le verre, c'est des rabanan. C'est pas manger du porc, mais les gens ne savent pas, mais ça, il n'y a pas de parade. Tu comprends, c'est des choses. Il n'y a pas de solution. Je suis obligé de manger. Tout le monde mangera dans les beaux. On a un beau couvert pour le soir du seder en argent, etc., etc. Moi, je mange dans mon truc en plastique. D'accord ? Ok, c'est pas si grave. Là, il faut faire preuve de tolérance de la part des parents, expliquer que ce n'est pas parce que je mange dans un plat différent que je ne respecte pas votre façon de faire. on se respecte, on est tolérant, et le shalom passe avant tout. Répétez ça souvent, c'est un bon argument, le shalom passe avant tout.
Et comment faire aussi au niveau de la discussion, voilà, nous on est un peu Torah, puis bon, c'est pas qu'on a tout lâché de ce qu'on avait avant,
ouais.
Mais c'est que, voilà, par exemple, ils vont parler de quelque chose comme l'actualité, même pas ce qui se passe en Israël, mais là, une actualité
je vais t'expliquer une chose très très... je vais t'expliquer une chose qui est très importante. Tu es le fils de tes parents. Tu ne peux pas, au nom de la Torah, dire c'est fini parce qu'on n'a plus les centres d'intérêt.
Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de parler, mais c'est comment moi essayer d'être...
J'ai compris.
Avec les frères et sœurs aussi, etc.
Il faut, la famille reste la famille, et il faut cultiver et maintenir une relation. Relation, ce n'est pas qu'on n'est pas en conflit et c'est tout. Ça, c'est le feu. Ce n'est pas une relation. Une relation, c'est qu'il y a des échanges. Maintenant, toi, tes échanges, ils sont toujours Torah, parce que le reste ne t'intéresse absolument pas. C'est tout à fait inintéressant. Mais eux, tous leurs échanges ne sont que dans l'inintéressant et pas dans ce qui t'intéresse, toi, dans la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Eux, on va dire, ils sont dans ce domaine-là, toi, tu es dans ce domaine-là. On peut plus parler. Ce qui t'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Il faut descendre un peu. Eux, s'ils veulent monter un peu, c'est encore mieux, mais on ne va pas trop leur demander. On va demander à toi de faire l'effort. Tu descends un peu et tu rentres dans un domaine qui est le domaine du permis. S'il parle de la dernière actrice de cinéma et trucs comme ça que tu ne peux pas écouter, d'accord, alors tu n'écoutes pas et tu vas discrètement aux toilettes, d'accord, j'ai un besoin pressant, excusez-moi. On peut sortir, etc., d'accord. Mais ça vaut la peine. Ce n'est pas si grave d'écouter, de réagir. J'ai vu des grands de Torah qui, chez eux, chaque seconde, c'était Torah, avec des gens qui venaient visiter, des gens du peuple comme ça, ils parlaient de tout et de rien pendant une heure de repas, de tout et de rien, comme si... Je ne comprends pas. Et kadosh. Non. C'est un savoir-vivre, savoir descendre au niveau des intérêts de la personne avec qui je suis maintenant en relation et parler de ce qui l'intéresse à lui. Nous aussi, avec nos parents, frères et sœurs, c'est la famille. Les parents, c'est... La Gemara, elle dit, Ashrei lo chaman, heureux celui qui n'a pas vu ses parents, l'orphelin. Tellement l'exigence du respect des parents, elle est haute, cruciale. Crucial. C'est extrêmement important. Alors, quand tu demandes maintenant de parler de tout, parle de foot, où est le problème? Parle, je ne sais pas moi, n'importe quoi.
Politique,
l'astronomie, découvertes scientifiques, pourquoi pas? C'est pas interdit.
Tiens. Vous avez dit, il y a deux types de réactions qu'on observe. On observe soit une teshuva de la part des parents ou de la famille. D'ailleurs, il y a écrit qu'à la fin des temps, ce sera les enfants qui feront faire teshuva aux parents. Et ça, c'est constatable. Ou soit des relations, enfin des cas extrémistes, extrêmes.
Mais, et toutes les variantes entre les deux extrêmes.
T'as
toutes
les... Là, justement, par exemple, un des parents qui est tellement ancré dans la Touma, par exemple dans l'impureté avec une Goya et compagnie, que pour lui, ben, c'est pas possible de faire teshuva. Donc du coup, ben, il fait un peu l'autruche, quoi, en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'aime pas l'enfant, qu'il n'a ni une réaction.
Il aime l'enfant. Il aime
une relation de teshuva. Enfin, ni une réaction, pardon, de teshuva, ni une
réaction. Celui qui est loin de Torah et qui ne réagit pas de façon virulente à la teshuva de son fils, il y a deux solutions. Ou il a une grandeur d'âme, il peut accepter une différence qui est proche. Bien qu'elle dérange, mais il dit rien parce qu'il est tolérant. C'est une très grandeur d'âme, une très grande grandeur d'âme. Ou bien il est tellement loin de Torah, il est tellement dans la Touma, comme tu dis déjà, que pour lui, tu fais ce que tu veux, tu es heureux, ça ne m'intéresse pas. Ça ne le remet même plus en question. Comme j'ai dit au début de mon cours, chacun de nous a une neshama juive, qui l'appelle. Maintenant, cet appel-là, chez ceux qui sont loin de Torah, il le refoule. Et quand tout à coup, dans la réalité, on voit quelqu'un qui rappelle cela, ça dérange, parce que ça réveille en moi cet appel. Donc je commence à haïr cette personne qui rappelle chez moi les choses que je veux refouler. Mais si maintenant on a complètement atrophié l'appel de la Neshama, ça ne fait plus rien. Quelqu'un maintenant, il devient religieux, bon, tu es comme ça, tu aurais pu être Krishna, tu aurais pu être bouddhiste, tu aurais pu être... fais ce que tu veux, mon fils, tu es heureux, je suis heureux pour toi. C'est-à-dire que ça, au niveau de la Neshama juive, c'est pas mal atrophié. Ou une grandeur d'âme, ou atrophié, ou des fois les deux. On peut avoir une grandeur d'âme en étant très loin de Torah aussi. Ou il la joue comme ça. Il a vu un cours de Havre de Chagrin qui dit qu'il faut jouer grandeur d'âme et tout ça, et il a joué grandeur d'âme, d'accord. Il est bouffé à l'intérieur. Il ne veut pas le montrer parce que ça serait trop dur pour lui de remettre en question, etc. Donc il la joue bien. Oui.
Souvent, chez la famille où la cache-croûte elle est plus basse.
Alors, chez les parents, on peut baisser, pas chez les autres. Baisser tant que c'est cachère, mais baisser.
Même pour le jeune homme ?
Même pour le jeune homme. Avec les autres, non. Les parents, c'est qui vous l'avez. C'est dit pour les parents. C'est où ?
Non.
Non.
Et si les parents, ils veulent qu'on y aille
On va. On va. On va. Et alors, il faut bien se connaître en cache-croûte, voir comment naviguer. Ce qu'on peut pas, c'est-à-dire on salue son assiette, on goûte. Il faut connaître quels sont les dangers, de quel aliment, c'est compliqué.
Tout ça reste cachère quand même.
Si ça reste cachère, ça dépend de qui, quoi, comment. Il faut savoir, quels sont les dangers, de quoi. Il faut se connaître en cache-croûte bien, appeler un rave, spécialiste. Voilà, je vais m'attendre des gens non religieux, sur quoi je mets un spécialiste en cache-croûte, dans le pays dans lequel on est. Il y aura de la viande comme ci, il y aura des légumes comme ça, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux ne pas manger. Il te dira, voilà, ça c'est un danger comme ci. Ils sont au courant de tout ce qui se passe, ce qu'est le marché. Il te dira sur quel point tu peux alléger, sur lequel tu ne peux pas alléger. Et là, tu manges beaucoup de ce plat délicieux alors qu'il n'est vraiment pas bon, parce que c'est ce qu'ils mangent cachère. Après, tu es rassasié, tu salis et ton assiette un peu des autres choses. Tu peux dire. Ça, tout dépend du contexte, mais ils peuvent comprendre qu'actuellement, tu as un standing de cache-croûte qui n'est pas le même que le leur. Tu respectes tout à fait leur standing. Vous mangez cachère. Vous mangez cachère.
Souvent, ils ne comprennent pas. Quoi,
vous mangez cachère, aucun problème. Moi, comprenez, il y a plusieurs niveaux. Moi, je veux plus. C'est tout. C'est cachère. Moi, je veux plus. C'est pas... Si tu as dit, vous mangez taref, je ne mange pas. C'est sous-entendu, vous mangez taref. Ça, ils se sentent blessés. Vous mangez cachère. C'est super cachère. Aucun problème là-dessus. Je veux plus. Je veux plus. Et là, il faut l'expliquer. Hein. J'ai quelques cours sur la cache-croûte. J'explique cela. Je n'ai pas le temps maintenant, mais il faut comprendre que ce n'est pas le tampon cachère qui rend cachère. Le tampon cachère, il dit qu'il y a une surveillance. Plus l'organisme qui donne la cache-croûte, il est sérieux, plus la surveillance, elle est grande. Mais on n'est jamais certain que c'est complètement cachère. Jamais certain. Pour être certain, il faut que je plante des tomates chez moi à la maison. D'accord ? On n'est jamais certain. Simplement, on limite les risques. Alors, tu leur dis, écoutez... Vous prenez un risque de 1 sur 100. Moi, je ne veux pas prendre ce risque. Je prends un risque de 1 sur 1000. Ouais, tu comprends. Dernière question, après on s'arrête.
Une petite raison sur ce qu'on avait dit avant. Quand vous dites donc de se mettre à leur niveau, entre guillemets, de parler voilà, de tout et de rien.
Ouais.
Et ça, c'est ce que moi, par exemple, j'essaie de faire. Mais ils voient très bien que je joue la comédie.
Ça fait rien. Qu'est-ce que je peux faire de plus ?
Et après, ils peuvent dire, en fait, non, tu t'en fous, etc.
Joue bien, essaie de jouer bien. Et puis, ouais, oui, écoutez, non, ça m'intéresse moins, c'est vrai, mais sinon, j'en parlerai pas du tout. Ça m'intéresse quand même un peu. Bah, ou Radonna, il va m'en venir, mais...